Si je dis à une vache, demain, je t'emmène à l'abattoir. Elle va me regarder, tout étonnée, puis continuer à brouter paisiblement la bonne herbe fraîche de son pré. Elle n'a rien compris, et elle s'en fiche. Hier et demain n'existent pas pour elle. L'homme est différent, car il vit dans le présent, en portant le fardeau de son passé et d'un avenir incertain ou même menaçant. Je continue de lire dans le chapitre 8 du livre d'Amos. En ce jour-là, c'est là ce que déclare le Seigneur. L'Éternel, je ferai coucher le soleil à l'aube de midi, et, en plein jour, je couvrirai la terre de ténèbres. Ce jour-là est une nouvelle référence à un temps de châtiment pour Israël Nord. Et ce jugement est annoncé par une éclipse. Or, il en existe deux sortes, éclipse de lune et du soleil. Elles sont possibles parce que, d'une part, la distance entre le soleil et la terre est 400 fois plus grande que la distance entre la lune et la terre. Et d'autre part, le diamètre du soleil est 400 fois plus grand que celui de la lune. En d'autres mots, comme le soleil est 400 fois plus gros et 400 fois plus loin que nous, que la Lune, depuis la Terre, ces deux astres semblent avoir la même taille. Aujourd'hui, les astronomes peuvent remonter dans le temps et regarder ce qui se passait dans le ciel des siècles en arrière. C'est ainsi qu'on sait que deux éclipses de soleil se sont produites un peu avant le début du ministère d'Amos. La première eut lieu le 9 février 784 avant Jésus-Christ, et l'autre le 15 juin 763. À cette même époque, les gens sont extrêmement superstitieux et donc terrifiés par les manifestations célestes qu'ils ne comprennent pas. Les astrologues, par contre, comme ce qu'on appelle les rois mages et qui venaient de Babylone, connaissaient bien le mécanisme des éclipses. Selon la prophétie d'Amos, une éclipse solaire accompagnera un tremblement de terre qui décimera une partie de la population d'Israël Nord. Je continue le texte. Je changerai vos fêtes en jours de deuil, et tous vos chants en amères lamentations. J'imposerai un habit de toile de sac à tous les habitants, et leur ferai raser la tête. J'infligerai à ce pays une douleur aussi profonde que lorsqu'on perd un fils unique et qu'il adviendra, par la suite, ne sera que jour de malheur. La tête rasée exprime une très vive douleur, et l'habit de toile de sac est un vêtement de deuil, généralement tissé en toile de chèvre. Il se porte à même le corps, ce qui est fort déplaisant. Le désagrément physique qu'il occasionne exprime la souffrance morale ou affective suite au décès d'un bien-aimé. Ici, il est question de deux détresses. Un tremblement de terre, suivi quelques années plus tard de l'invasion du royaume des 10 tribus par les armées assyriennes. Comme je l'ai déjà dit, la catastrophe sismique accompagnée de l'éclipse est le premier malheur, et il sera particulièrement meurtrier puisqu'il y aura des victimes dans chaque maisonnée. On se lamentera dans tout le pays comme pour la mort de son seul enfant, ce qui est alors le summum de la douleur. Dans le Proche-Orient ancien, des parents, ainsi frappés, connaissent un désespoir sans fin, car chaque jour leur rappelle le souvenir funèbre de la mort de leur fils unique. Jésus en est tout à fait conscient quand il ressuscite le fils de la veuve de Naïm, ce que nous rapporte l'Évangile selon Luc. Soit dit en passant que ceux qui ont une foi personnelle en Jésus-Christ ne devraient pas devenir ainsi désespérés, bien que la douleur de la perte d'un enfant soit réelle. Elle doit être mitigée par l'espérance chrétienne. dans sa première épître aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul écrit « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis. » Le deuxième malheur qui frappera Israël Nord aura lieu quelques années après le tremblement de terre et sera fatal puisqu'il s'agit de l'invasion du pays par les Assyriens. Tous ceux qui auront survécu à la première détresse devront subir la seconde. Et là encore, il y aura des victimes dans toutes les maisonnées et les survivants prendront le deuil pour les morts. Ça paraît bien sévère. Mais Dieu avait averti son peuple qu'il se vengerait si son alliance était violée. En effet, dans le livre du Lévitique, on lit « Je déclencherai des guerres contre vous pour vous punir d'avoir rompu mon alliance. Si vous vous réfugiez dans vos villes fortifiées, je déchaînerai la peste au milieu de vous et vous serez livrés à la merci de l'ennemi. » Je continue le texte. Voici venir des jours, c'est là ce que déclare le Seigneur, l'Éternel, où je répandrai la famine dans le pays. On aura faim et soif, non pas de pain ou d'eau, mais faim et soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Puisque les Israélites ont rejeté la parole de Dieu, ils en seront privés. Il aurait pu penser que ce temps de famine spirituelle que mentionne Amos corresponde à la période d'instabilité politique que connaît le royaume après la mort de Jéroboam II, car les 30 années qui suivirent ne sont guère glorieuses, c'est le moins qu'on puisse dire. La nation aura encore 6 rois, mais 4 d'entre eux sont assassinés, dont Zacharie, le propre fils de Jéroboam II. Cependant, pendant ces sombres années, le prophète Osée exerce son ministère en Israël Nord jusqu'à sa fin, ce qui fait que la parole de Dieu est toujours bien présente. Par contre, les Israélites qui sont déportés en Assyrie doivent laisser derrière eux tout ce qui fait leur identité de peuple de Dieu. De plus, en Assyrie, ils sont immergés dans l'idolâtrie la plus sordide d'une culture profondément païenne. C'est donc au moment où ils baigneront dans l'impureté morale et spirituelle qu'ils se souviendront du Dieu de leurs ancêtres et le chercheront désespérément. Ils réaliseront enfin, mais trop tard, qu'ils auraient dû obéir aux ordonnances de la loi et que l'homme a besoin d'une relation avec son Créateur. Au moment d'entrer en terre promise, l'Éternel a dit à la nouvelle génération d'Israélites « Ton Dieu t'a fait connaître la pauvreté et la faim, et il t'a nourri avec cette manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres n'avaient pas connue. De cette manière, il voulait t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de toute parole prononcée par l'Éternel. » Matthieu rapporte que Jésus a repris ce précepte dans son discours sur la montagne. Exilés en Assyrie, les Israélites auront faim et soif de la parole de Dieu. Ils tourneront leur regard vers le ciel, désirant du fond de leur être entendre un prophète leur communiquant un message de l'Éternel, mais ils en seront privés, ce qui sera évidemment un jugement contre eux. Ils connaîtront alors la situation décrite dans le psaume 74 quand le psalmiste dit « Plus de signes miraculeux, plus de prophètes, personne parmi nous qui sache combien de temps encore tout cela durera. » Dans le premier livre de Samuel, on apprend que l'Éternel a déjà agi ainsi à l'égard de son peuple rebelle sous le ministère du juge Élie. Plus tard, Dieu refuse de répondre au roi Saül qui, attaqué par les armées des Philistins, est pris de panique, parce que le roi avait auparavant rejeté la parole de Dieu. Le ciel reste d'airain. Toujours, dans le premier livre de Samuel, on lit « Saül voulut consulter l'Éternel, mais l'Éternel ne lui répondit ni par des rêves, ni par l'Ourim, ni par les prophètes. » Quand les Israélites du royaume de Juda iront en captivité à Babylone, ils désireront également entendre la parole de l'Éternel, mais comme leurs frères du Nord, ils en seront privés. Plusieurs prophètes écrivent. Il n'y a plus de loi, et ces prophètes ne reçoivent plus de révélation de l'Éternel. Désastre sur désastre viendront les submerger, et il y aura un afflux incessant de mauvaises nouvelles. Ils solliciteront en vain quelques révélations de la part du prophète. La loi fera défaut aux prêtres et les responsables du peuple seront dépourvus de conseils. Ceux qui ont des révélations seront couverts de honte et leurs devins perdront la face. Ils se couvriront le visage car Dieu ne leur répondra pas. Je continue le texte du chapitre 7 du livre d'Amos. Alors, ils erreront d'une mer jusqu'à l'autre, et puis, du nord à l'est, ils iront çà et là pour rechercher la parole de l'Éternel, mais ils ne la trouveront pas. Parce qu'ils ont perdu leur identité, les Israélites exilés chercheront Dieu partout où ils pourront marcher sur la terre ferme, d'une mer à l'autre, du nord à l'est. Est une abréviation de l'expression du nord au sud et de l'ouest à l'est, c'est-à-dire dans toutes les directions. C'est une quête incessante. Elle sera donc pour les Israélites du nord du temps de la grande détresse. Dispersés, ils attendent en vain quelques signes du Dieu de leurs ancêtres ou d'un prophète qui apaiserait leur angoisse par une promesse venue d'en haut. Mais il n'y en aura pas, et ils mourront en terre d'exil. Dur, dur. Je continue. En ce jour-là, les belles jeunes filles et les adolescents dépériront de soif. Ce verset est un parallélisme poétique du précédent, et le troisième du petit poème qui menace le peuple alors exilé en Assyrie. Du châtiment qui consiste à une faim et soif perpétuelle et non satisfaite d'entendre une parole venant de Dieu. Il faut savoir que les peuples déportés ne sont pas envoyés dans des mines de sel au fin fond de l'Empire assyrien. Ils sont intégrés aux populations existantes et participent au tissu social. Alors qu'habituellement, l'intérêt des jeunes est plutôt orienté vers le secte opposé et une carrière professionnelle, il en sera tout autrement pour les jeunes Israélites, ayant reçu une éducation religieuse de leurs parents, ayant entendu parler des œuvres fabuleuses que l'Éternel a réalisées en faveur de leurs ancêtres, ils ressentent cruellement l'absence de la parole de Dieu en terre d'exil, et cette soif reste insatisfaite. Ils dépériront de soif. Ce verbe signifie voilé, couvert. Il exprime l'état physique de celui qui est en train de mourir de soif. Il s'affaiblit de plus en plus vite. Sa vue se brouille et il sent des ténèbres s'apesantir sur lui et l'envelopper. Je finis de lire le chapitre 8 du livre d'Amos. Ceux qui prêtent serment par l'idole coupable de Samarie, tous ceux qui disent « Vive ton Dieu, Odan, vive le culte rendu à Beersheba !» tomberont sans jamais se relever. Amos revient à l'état actuel d'Israël Nord qui menace à nouveau d'une ruine dont il ne se relèvera pas. L'idole coupable correspond au veau d'or censé représenter l'Éternel. Le prophète Osée écrit « ton veau. Ô Samarie, je le rejette, oui. Contre toi, ma colère s'est enflammée. Combien de temps encore seras-tu incapable de pureté? Car ton veau, il vient d'Israël, un artisan l'a fait, il n'est pas Dieu. Il sera mis en pièces, le veau de Samarie. Comme je l'ai déjà dit, il existe au moins deux veaux d'or, un à Dan, tout au nord du pays, et l'autre à Bethel, au sud. Mais il y a de fortes chances qu'il y en ait d'autres, bien que les Écritures ne les mentionnent pas. Les Israélites du nord jurent par ce veau d'or, alors que dans le livre du Deutéronome on lit « C'est l'Éternel, ton Dieu que tu dois révérer, c'est à lui que tu rendras un culte, et c'est par son nom que tu prêteras serment. » Cela dit, le veau d'or n'est pas la seule idole mentionnée par Amos dans ce passage. En fait, il joue avec le mot hébreu « asama », traduit par « coupable ». En effet, d'une part, asama est associé au nom du faux dieu Asambetel, dont on a trouvé des traces à Éléphantine, qui est une île en Égypte sur le Nil, en face de la ville d'Assouan, proche du grand barrage. D'autre part, Asama est également associé à la déesse syrienne Asima ou Ashima, qui fut emportée par les Israélites. On peut donc dire qu'Amos fait d'une pierre trois coups. Il condamne le culte du veau d'or plus aux faux dieux égyptiens et une déesse syrienne qui font tous partie de la panoplie idolâtre des Israélites. Ce n'est pas tout. En mentionnant Dan et Beersheba, Amos joue aussi sur l'expression de Dan à Beersheba, qui signifie tout Israël avant sa scission en deux royaumes. En effet, ces deux localités, distantes d'environ 230 kilomètres, constituaient les extrêmes nord et sud du pays. D'un trait de plume, Amos condamne donc tous les Israélites idolâtres. Ceux du nord avaient coutume de dire « Vive le culte rendu à Beersheba !» Or, et comme je l'ai dit auparavant, cette localité est située au fin fond du royaume de Juda, à 100 kilomètres au sud-ouest de Jérusalem. À l'origine, Beersheba doit son importance à ses 7 puits d'eau, une ressource inestimable dans un pays sec. Mais au fil du temps, ce lieu devient un centre d'idolâtrie et de pèlerinage pour tous les Israélites, même ceux du nord, malgré la distance, et le fait qu'ils sont déjà bien fournis en sanctuaires divers et variés. Mais quand il s'agit d'assouvir ses pulsions perverses, rien n'arrête l'être humain. Nous arrivons au dernier chapitre du livre du prophète Amos, et à sa dernière vision. Cette cinquième vision est aussi la plus brutale de toutes. Les deux premières ont annoncé une catastrophe agricole, mais l'intercession d'Amos a conduit l'Éternel à y renoncer. Les deux suivantes ont prédit la fin de la dynastie royale de Jéroboam, l'anéantissement des sanctuaires idolâtres, ainsi que la fin du royaume des 10 tribus du Nord. Je commence de lire le chapitre 9 du livre d'Amos. Je vis le Seigneur debout sur l'autel, disant « Qu'on abatte le chapiteau des colonnes du temple » et que le seuil en tremble. Brise-les sur leur tête à tous. Ceux qui subsisteront, je les abattrai par l'épée. Aucun d'eux ne pourra s'enfuir, aucun d'eux n'en réchappera. » Amos se trouve toujours à Bethel, siège du sanctuaire royal, où il proclame la parole de l'Éternel. Nous sommes à la fin de l'été, et selon la loi de Moïse, tous les hommes valides doivent se rendre au temple de Jérusalem pour y célébrer la fête des cabanes ou tabernacles. Mais lors de la scission d'Israël en deux royaumes, Jéroboam Ier, premier roi d'Israël Nord, a institué une fête parallèle afin que ses sujets, les Israélites du Nord, ne se rendent pas dans Juda. En effet, dans le premier livre des rois, on lit « Jéroboam fit aussi construire des sanctuaires sur des hauts lieux, et il établit prêtres des hommes pris sur la masse du peuple qui n'appartenait pas à la tribu de Lévi. Jéroboam institua au 15e jour du 8e mois une fête semblable à celle qui se célébrait en Juda, et il offrit lui-même des sacrifices sur l'autel aux veaux qui avaient été fabriqués. Jéroboam craint que si le peuple se rend à date fixe à Jérusalem pour y adorer l'Éternel, son peuple risque fort de se remettre sous la dynastie légitime de David. En effet, les citoyens du Nord peuvent alors facilement renouer avec leurs frères du Sud et se rallier au culte de l'Éternel à Jérusalem. Jéroboam a peur d'être rejeté et même tué. C'est pourquoi il crée 22 nouveaux sanctuaires, dont les deux principaux se trouvent aux deux confins de son royaume, au nord à Dan et au sud à Bethel. Contrairement au commandement qui interdit d'adorer l'Éternel en se servant de simulacres, Jéroboam érige un veau d'or dans chacune de ces deux localités. Pour encourager le peuple à célébrer ce nouveau culte, Jéroboam emploie la même formule que celle qu'ont utilisée les Israélites quand Aaron, le premier grand prêtre, leur a façonné un veau d'or. Moïse est alors sur le mont Sinaï avec l'Éternel. Cet épisode tragique se trouve dans le livre de l'Exode que je lis. Quand le peuple s'aperçut que Moïse tardait à redescendre de la montagne, il se rassembla autour d'Aaron et lui dit « Allons, fabrique-nous un Dieu qui marche devant nous, car Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » Aaron leur répondit « Détachez des pendants d'or des oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Aussitôt, tous défirent des pendants d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Celui-ci les reçut de leurs mains, façonna l'or au burin et en coula la statue d'un veau. Alors le peuple s'écria « Voici ton Dieu Israël qui t'a fait sortir d'Égypte. » Au final, Jéroboam Ier a fait tout ce qui était en son pouvoir pour que la scission avec Juda et la dynastie de David soit franche, définitive et irréversible. Dans sa vision, Amos s'aperçoit donc d'une part les fidèles massés sous le seuil du temple pour célébrer la fête, mais aussi et surtout Dieu lui-même debout, c'est-à-dire dans l'attitude combattante du Seigneur d'une armée céleste. Ici, il donne à l'ange exterminateur qui l'accompagne l'ordre de porter un coup fatal au chapiteau du temple qui est soutenu par des colonnes, ainsi qu'aux fondations, afin qu'en s'écroulant, le bâtiment écrase les adorateurs israélites idolâtres. Cette dernière vision n'est plus symbolique comme les précédentes, car Amos voit l'entière ossature du temple s'effondrer devant ses yeux. Avec la destruction du sanctuaire royal de Bethel, tombent tous les autres du même type, ce qui entraîne la ruine et la fin du culte du veau d'or. Une aberration qui dura quand même plus de 2 siècles, c'est-à-dire jusqu'à ce que les Assyriens y mettent fin. Non seulement Amos voit le temple idolâtre s'effondrer, mais il observe aussi que, dans sa colère, l'Éternel donne un second ordre à l'ange exterminateur, celui de poursuivre les rescapés afin de les exterminer jusqu'au dernier. Comme je le dis quelquefois, Dieu est plein de compassion et de grâce, lent à se mettre en colère et riche en amour et en fidélité. Mais quand sa patience est épuisée et que le couperet tombe, son jugement est impitoyable.